Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
7h41, bonjour Jean-Michel Blanquer, vous êtes ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. L'éducation nationale n'est pas épargnée par le mouvement de contestation sociale qui secoue le pays, de l'aveu même du gouvernement, sans revalorisation substantielle de leur rémunération. Les enseignants seront les grands perdants du nouveau mode de calcul prévu par le projet de réforme des retraites. Alors pour rassurer vos troupes, Jean-Michel Blanquer, vous avez promis d'augmenter progressivement les salaires des enseignants à l'horizon futur. Pourtant, l'inquiétude n'est pas retombée chez les enseignants qui étaient encore nombreux à protester ce mardi. Comment l'expliquez-vous ?
Mais parce qu'il faut qu'ils voient de manière plus concrète quelles sont ces augmentations dont j'ai parlé. Donc c'est assez normal que la fièvre qui a pris au début du mois de décembre retombe seulement progressivement. Mais c'est quelque chose de très sérieux qui s'engage, quelque chose de très concret aussi, qui correspond d'ailleurs à ce que je dis depuis 2 ans et demi maintenant. Hein. C'est-à-dire j'ai toujours reconnu qu'il fallait que nous avancions vers une augmentation de la rémunération des professeurs. Et puis là, nous devons maintenant réussir ce passage qui aura lieu le 1er janvier 2021. Donc c'est quelque chose là aussi d'assez concret, d'assez net, qui a été affirmé par le Premier ministre. Et donc lorsque l'on commencera avec les organisations syndicales à préciser les montants en jeu, chacun verra qu'on est dans quelque chose de totalement inédit, ce que chacun commence à voir. C'est-à-dire que c'est des montants importants qui sont en jeu pour arriver à ce que cette hausse des rémunérations au fil des années permettent d'avoir les rattrapages nécessaires.
Alors, on va essayer de prendre les choses un peu précisément. J'ai sous les yeux un tract syndical, celui du SNPTES, qui évoque la manière dont un professeur pourrait perdre de l'argent avec cette réforme des retraites. Alors, un collègue dit ce document décide de maintenir son départ à 62 ans après une carrière complète, donc 168 trimestres. Il devait percevoir 1 800 euros à la retraite et il n'en percevra plus que 1 620 euros. Donc il va perdre 180 euros par mois. Qu'est-ce que vous allez faire, Jean-Michel Blanquer, monsieur le ministre, pour compenser cette somme, si vous comptez la compenser ?
Voilà, il y a deux sujets différents. Il y a le sujet de l'âge pivot qui est sans doute derrière cette approche.
Et puis, il y a bien entendu le sujet de l'âge pivot, mais je cumule l'âge pivot, ces deux sujets.
Sur l'âge pivot, c'est un sujet qui vaut pour tous les Français. Et donc, il manque quelques éléments dans votre simulation pour pouvoir en parler. Par exemple, en quelle année cela se situe, puisqu'on imagine donc quelqu'un
qui... C'est quelqu'un qui prend sa retraite prochainement, mais...
Si c'est prochainement, si vous voulez. D'abord, la question de l'âge pivot n'a pas encore été définitivement tranchée. Le Premier ministre en a parlé. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup...
Vous pensez qu'il va céder ?
Non, mais il a dit hier qu'il y avait encore des marges de discussion. Là où on ne cède
c'est
pas...
C'est un peu ce que ça veut dire en langage politique.
Quels sont les points sur lesquels on ne cède pas ? C'est le caractère universel, qui va vers plus d'égalité, c'est la retraite à points, et c'est le fait d'arriver à un équilibre. Autrement dit, ça c'est la dimension de pérennité, c'est un peu l'engagement qu'on prend vis-à-vis des générations suivantes, puisqu'on veut s'assurer qu'on ne pousse pas la neige de la dette des régimes.
Bien entendu, mais alors prenons l'exemple de mon professeur qui attendait 1 800 euros à la retraite et qui se retrouve avec 1 620 euros.
Là, si je comprends ce qui est l'exemple que vous donnez, ce n'est pas le changement vers le régime à points qui aboutit à ce que vous dites. Là, c'est une simulation sur le fait que quelqu'un prendrait sa retraite à 62 ans au lieu de 64, qui serait le nouvel âge d'équilibre. Mais ce nouvel âge d'équilibre, c'est encore hypothétique et ce sera en 2027.
Alors maintenant, passons à la retraite.
C'est pas le cœur de la réforme des retraites. Le cœur de la réforme des retraites, c'est le régime à points. Ce régime à points, depuis le début, le premier à avoir identifié que ça pouvait poser un problème pour les enseignants, c'est moi. Et je l'ai dit évidemment à Jean-Paul Delevoye dans les travaux qui ont été faits, je l'ai dit au président de la République. C'est bien pour ça que le président de la République, dès la fin du mois d'avril, reconnaît parfaitement ce point. Donc aujourd'hui, il ne faut pas faire
mais
semblant
pourquoi
de penser.
Ça n'a pas été clarifié dans ce cas-là.
Non, on l'a dit, mais c'est parce qu'on n'est pas. On n'est pas entendu quand on le dit. Mais relisez ce que dit le président de la République à la fin du mois d'avril. Il le reconnaît parfaitement. Alors aujourd'hui, quand je vois des écrits du mois de décembre qui font semblant de ne pas entendre qu'on a reconnu ce point et qu'on a dit qu'on s'est engagé de travailler pour compenser le problème, c'est un peu comme si on cherchait à créer de l'angoisse pour rien.
Alors je vais vous donner un autre exemple de caractère anxiogène. Je vous donne un exemple, Jean-Michel Blanquer.
Ce goût pour les choses anxiogènes est quelque chose qui fait mal. Parce que, en réalité, depuis le mois d'avril, le président de la République a dit les choses très clairement. Encore, j'invite chacun à lire les textes, à regarder plutôt que tous les commentaires qui vont dans tous les sens, qui sont souvent faits pour créer de l'anxiété. Vous regardez les choses. Donc, le discours du président de la République à la fin du mois d'avril. Ce que j'ai déclaré dès le mois de juin. Ce que nous avons fait en matière de dialogue social pour préparer les choses dès le mois de septembre. et maintenant depuis le mois de décembre, les engagements pris par le Premier ministre lui-même, suivis ensuite par moi-même par des rencontres syndicales qui débouchent maintenant sur des premières approches qui vont vers des augmentations très concrètes.
Alors, admettons qu'on ait eu tort de s'inquiéter. Gérald Darmanin dit que les salaires des enseignants, à partir du moment où on a découvert qu'ils auraient une retraite inférieure à celle qui était prévue, qu'il va y avoir une somme pour compenser cela, une somme de 500 millions d'euros. C'est ça ?
C'est la somme qu'il a dite ce soir-là, qui serait dans ce cas-là 500 millions d'euros supplémentaires annuels. Mais c'est encore trop tôt pour être aussi précis.
Il y a 870 000 enseignants. J'ai fait un calcul, c'est un calcul extrêmement sommaire. Ça représente une somme d'un peu plus de 400 euros par enseignant et par an. Comment, avec 400 euros par enseignant et par an, compenser une perte de revenus?
Je ne comprends pas bien comment vous allez compenser cela. Il y a plusieurs problèmes dans ce que vous venez de dire. D'abord, ce chiffre reste largement à préciser et doit être le résultat des discussions que nous allons avoir et non pas la porte d'entrée. Ensuite, même en retenant ce chiffre, il ne s'agit pas d'avoir un saupoudrage exactement identique pour tout le monde, puisqu'on sait que le rattrapage que nous avons à faire...
Je parle d'une moyenne, bien entendu.
Non, mais bien sûr, mais il s'agit surtout de rattraper la première moitié la plus jeune, et notamment les gens nés après 1975, puisque par définition, les autres n'ont aucun changement dans leur régime de retraite. Il y aura une revalorisation pour eux, mais elle est forcément moindre que pour les plus jeunes, ce qui est d'ailleurs cohérent, puisque ce que l'on constate dans notre observatoire des rémunérations, et qui est bien connu, c'est que les problèmes de rémunération sont surtout en début et en milieu de carrière à l'éducation nationale. En fin de carrière, c'est mieux rattrapé.
Suite au nouveau mode de calcul, évidemment, ça devient très problématique, puisque vous prenez la totalité de la carrière.
C'est ça. Donc si on déroule le raisonnement, si vous me permettez deux minutes d'affilée, vous avez une structure de rémunération à l'éducation nationale qui, traditionnellement, est assez mal payée au début, vraiment mal payée au milieu et assez bien payée à la fin. Et c'est précisément ça qui permet d'avoir plutôt un bon niveau de retraite, puisqu'on prend en compte les 6 derniers mois. Tout ceci fait qu'aujourd'hui, la moyenne des retraites des enseignants, c'est 2600 euros mensuels. C'est plutôt une bonne moyenne et c'est cela que l'on veut préserver. Ce qui a été garanti, c'est le fait qu'on va maintenir ça. C'est-à-dire l'équivalent du 2600 euros mensuel sera maintenu. Ce qui est une énorme avancée de le dire, de le garantir dans la loi. Et ce sera écrit dans la loi que nous garantissons un niveau de pension. Ça, c'est un point déjà majeur. Ce qui sera écrit dans la loi aussi, et elle sera déposée, vous le savez, à l'Assemblée nationale à la fin du mois de janvier, c'est qu'on fera référence à une future loi de programmation que je préparerai tout au long de l'année, notamment au cours des 6 premiers mois avec les organisations syndicales. Et cette loi de programmation me permet de programmer les augmentations de rémunération pour arriver à cet objectif garanti par la loi. Cet objectif, même en prenant le chiffre que vous venez de donner, et en le répartissant d'ailleurs, non pas de manière homogène, mais surtout sur la moitié la plus jeune des professeurs, notamment eux, même si vous l'accumulez année après année, puisque ce n'est pas 500 millions une seule fois, c'est tous les ans.
C'est du récurrent.
Cela fait des sommes considérables en réalité, c'est-à-dire plusieurs centaines d'euros par mois.
Avec 870 000 enseignants, pas forcément.
Si, faites le calcul. Si vous faites ça année après année, au bout de 4... Mais encore une fois, je ne veux pas et je ne peux pas être plus précis à ce stade, puisque nous devons avoir des discussions, et c'est de ces discussions que surgiront les véritables chiffres. Mais même en suivant votre raisonnement, au bout de 4 ans, ça fait 200 euros par mois de plus. Il n'y a aucun domaine où vous avez une augmentation.
Alors, si
de
vous
salaire
faites 200 euros par mois en plus, ça veut dire que les 500 millions vont se cumuler. Donc au bout de 4 ans, vous serez à 2 milliards.
Bien entendu. Mais c'est pour ça que c'est considérable. C'est pour ça que, si vous voulez, on est dans une sorte d'asymétrie d'information. Parce que j'essaye d'être sérieux, c'est-à-dire de donner les informations au fil du temps, au fil des travaux. Parce que tout ça suppose du travail technique, du travail budgétaire et du travail de dialogue social.
C'est pourquoi je vous ai laissé expliquer, effectivement.
Tout à fait, mais en même temps que je le fais, toute une série d'inquiétudes
qui sont légitimes
diffusées.
Également,
monsieur
le ministre.
Je ne vous dis pas le contraire, mais si vous voulez, c'est très intéressant sur le plan démocratique ce qui est en train de se passer. Parce que, en réalité, on est à la veille d'une revalorisation historique des professeurs en France. C'est difficile à croire. Et regardez le ton de scepticisme que vous prenez. Pourtant, c'est ce qui va vraiment arriver.
Parce qu'en fait, je vous donne rendez-vous.
Bien sûr, mais on peut comme ça rentrer dans un cercle vicieux du scepticisme. Je vous le dis de manière très claire, nous sommes à la veille d'une revalorisation historique des professeurs. Voilà, on peut se donner rendez-vous dans un an, vous regarderez le bilan de ce qui aura été établi dans l'intervalle. Ce serait pas la première fois qu'il faudrait faire le bilan un an plus tard de ce que j'ai dit et que d'autres ont dit sur tel sujet.
Alors,
je vais
vous faire part, monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer, d'une autre inquiétude.
Si vous voulez, là je suis sur France Culture pour avoir la possibilité d'avoir du temps d'explication, si vous voulez. Ce qui me frappe, c'est à quel point sur ces sujets-là, des slogans sont envoyés, des fausses informations sont envoyées. Même dans les interviews, on n'a jamais le temps de développer quoi que ce soit.
Et là, vous perdez du temps en disant que vous n'avez pas le temps.
Non, je vous demande juste de ne pas m'interrompre parce que je pense que c'est important d'expliquer. Puisqu'il y a beaucoup de professeurs qui nous écoutent certainement. Nous sommes à la veille d'une revalorisation historique des professeurs. Si, même si on est dans ce schéma-là à 500 millions que vous avez dit, c'est 500 millions qui en effet se rajoutent chaque année. Donc si on est sur ce rythme-là, qui reste évidemment à confirmer en fonction du dialogue social que l'on va avoir, alors oui, en effet, c'est en centaines d'euros d'augmentation mensuelle que sur quelques années, cela va se traduire, notamment pour la moitié la plus jeune des professeurs de France. C'est cela le schéma dans lequel nous sommes en train d'entrer. Donc c'est extrêmement concret et aucune profession en France ne connaît une revalorisation pareil. Voilà, c'est quand même très important.
Cette revalorisation, monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer, sous quelle forme s'agit-il de primes ou va-t-il s'agir d'une revalorisation qui ne va pas modifier le métier d'enseignant? Parce que ça aussi, c'est l'autre inquiétude des enseignants.
Non, parce que là aussi, beaucoup de discours sont faits pour un petit peu inquiéter. Mais en réalité, il y a beaucoup d'améliorations possibles dans notre système scolaire. J'entends sans arrêt une série de frustrations, d'inquiétudes qui ne sont en dehors du sujet des rémunérations, la santé au travail, le sujet de l'organisation du travail, le sujet de la sécurité, le sujet de l'aide, par exemple, au logement pour les plus jeunes dans notre système. Toute une série de choses, et puis les évolutions éducatives et pédagogiques, la prise en compte de la révolution technologique dans laquelle nous sommes entrés. Bref, nous avons une occasion historique, là encore, à l'occasion de cette revalorisation, de définir ce qu'est le professeur du 21e siècle. Donc cette occasion de modernisation du système, pour que aussi notre mode de fonctionnement soit au service des élèves, puisque nous faisons cela à la fois pour revaloriser les professeurs, pour remettre le professeur au centre de la société française, et pour faire que ce positionnement du professeur soit au service des élèves. C'est-à-dire qu'à la fin, nous ayons une amélioration de notre système scolaire. Donc cela suppose un investissement de la nation dans son éducation nationale. Je suis l'avocat inlassable de cela, y compris une échelle européenne, pour qu'il y ait un pourcentage du produit intérieur brut plus important consacré à l'éducation dans tous les pays d'Europe. Et en ce qui concerne la France, c'est donc ce qui va se passer, parce que c'est le meilleur investissement d'avenir. Ça va se traduire par une augmentation du salaire des professeurs, mais aussi peut-être par d'autres façons d'être organisé, tout simplement.
Donc il y aura une contrepartie. Jean-Michel Blanquer.
Oui, c'est pas le mot que j'utilise.
Nouvelles missions pour les professeurs.
Ou parfois la reconnaissance de choses qui existent, qui sont masquées. On parle souvent de la préparation de cours, des corrections de copies. Tout ceci doit être plus explicité. Au-delà de ça, c'est la façon dont on travaille. Dans le futur, il est souhaitable qu'on encourage tout ce qui permette de travailler en équipe, par exemple. Il y a aussi tout un tas de sujets liés à la réforme des retraites, comme la cessation progressive d'activité, pour être capable de beaucoup plus personnaliser à la fois le parcours de chaque professeur et tout simplement ses choix de vie.
Qu'est-ce que ça veut dire, personnaliser?
Il y a mille choses. Par exemple, quand je parle de cessation progressive d'activité, lorsque vous avez une soixantaine d'années, vous pouvez désirer faire, par exemple, moins d'heures de cours, mais peut-être plus d'aide personnalisée aux élèves. C'est ce type de choses qui doivent être rendues possibles. Cette personnalisation, c'est aussi vrai pour les mutations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frustrations liées à nos caractéristiques parfois un peu anonymes, parfois un peu bureaucratiques. Nous devons avoir une gestion des ressources humaines totalement modernisée. Tout ceci, nous avons 6 mois de dialogue social pour permettre de le faire avancer au moment même où nous allons mettre tout simplement beaucoup plus de moyens dans l'éducation nationale.
6 mois de négociation, est-ce que tout sera sur la table? Est-ce que cette augmentation, je vous repose autrement ma question, Jean-Michel Blanquer, monsieur le ministre, est-ce que cette augmentation du salaire des enseignants, elle va être conditionnée par exemple à une évolution, une modification de leur temps de travail, de la durée des vacances? Bref, est-ce qu'il va y avoir une modification substantielle de leur mission?
Non, alors là, vous avez dit plusieurs choses assez différentes. S'agissant des vacances, c'est pas tellement ça le sujet, à mon avis. Le sujet, c'est beaucoup plus la façon d'avoir une vision de son temps, non pas seulement sur une année, mais même sur plusieurs années. Être capable de se dire, par exemple, je vais rester 5 ans dans tel endroit, et le fait d'y rester 5, parce que, par exemple, en réseau d'éducation prioritaire, le fait d'y rester 5 ans va me faire acquérir des droits particuliers. Mais je m'y engage, et je m'y engage peut-être en équipe. Vous voyez, c'est être capable d'avoir des formes d'accord sur la durée, sur avoir une vision sur le court terme, le moyen terme et parfois le long terme sur la façon dont on envisage sa carrière. Ça fait partie des choses à discuter. Il n'y a rien de très binaire dans tout ça, si vous voulez. C'est beaucoup
donc
plus
tout est sur la table.
Tout est sur la table, c'est l'occasion.
L'annualisation du temps de travail?
Oui, tout est sur la table, tout est possible. On peut discuter
oui,
tout, pas spécialement.
Oui, aussi l'annualisation du temps de travail.
Ces sujets-là, si vous voulez, quand vous utilisez ce type de terme-là, vous pouvez être sûr que 1000 esprits se braquent. Et c'est pas mon but. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait une vision systémique des choses. Dès qu'il y a trop de sujets qui, lorsqu'on les aborde, deviennent immédiatement des chiffons rouges qui agacent tout le monde et qui empêchent de discuter. C'est à cause de ces blocages-là qu'on n'arrive pas parfois à moderniser autant qu'on le voudrait le système au service des professeurs et des élèves, et au service d'ailleurs de tous les personnels. Moi, ce que je veux, c'est une éducation nationale où il y ait du bien-être au travail pour tous, pour les adultes comme pour les élèves. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de limites. Pourquoi ne pas les regarder ensemble, pour les dépasser ensemble? Et ça passe beaucoup par des améliorations très concrètes pour les professeurs. Et évidemment, le signal de la rémunération est un signal très fort. Donc, à la veille de moyens très importants que la nation va mettre dans son éducation nationale, tout à fait normal de remettre tout cela à plat et de le faire dans le dialogue social, dans la sérénité, en le faisant aussi avec un angle international. C'est pour ça que je vais organiser dans la deuxième quinzaine de mars une grande conférence internationale sur le professeur du 21e siècle, dont le but, encore une fois, est de remettre le professeur au centre de la société. On est en train d'entrer dans un monde complètement nouveau avec la révolution numérique. Le paradigme central a changé, notamment dans l'accès à l'information, et on aura encore plus besoin des professeurs, encore plus besoin d'en recruter, encore plus besoin de bien les payer, encore plus besoin de bien les accompagner. C'est cette révolution là, de l'organisation des ressources humaines, que nous devons organiser, et si possible de manière constructive et dans le dialogue social. Et donc, c'est pas les schémas binaires classiques qu'il faut avoir.
Il y a quand même beaucoup de choses qui vont devoir être modifiées si je vous suis. Et du coup, on imagine l'anxiété des étudiants avec une situation sociale qui est extrêmement tendue. Est-il opportun de modifier tant de choses alors que le premier problème, c'est cette réforme des retraites? Je veux dire, c'est un problème puisque elle laisse augurer à ses enseignants une diminution sensible de leur pension de retraite.
Non, mais je pense que c'est pas nécessaire de répéter cela comme un moulin à prière, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit, et pas seulement moi, le Premier ministre et le Président disent deux choses qui sont des engagements très fermes sur lesquels on peut être jugé à très court terme. C'est-à-dire, premièrement, la garantie des pensions qui sera écrite dans la loi. Deuxièmement, l'augmentation des rémunérations qui sera écrite dans la loi de programmation. Ces choses-là sont extrêmement concrètes et vont se concrétiser au cours des prochains mois. À partir du moment où on dit cela, on peut aussi, sur ce socle-là, travailler sur des enjeux qualitatifs de notre système, encore une fois, au service de notre pays, puisque à la fin, ce qui compte, c'est que nos élèves sortent de manière bien formée de notre système scolaire, et que par rapport à toute une série de limites qui sont constatées par les uns et les autres, à commencer par les professeurs eux-mêmes, on sache les dépasser. Donc il y a vraiment une opportunité très, très constructive d'agir. Et quand vous parlez de climat, le climat, il dépend de chacun d'entre nous, de notre manière d'aborder de façon constructive ces enjeux-là.
Et alors justement, qu'est-ce qui empêche? Parce que il y a peut-être effectivement la répétition de peur, mais cette répétition de peur, elle est liée aussi à une manière de présenter les choses où beaucoup de choses vont devoir, semble-t-il, être négociées. Jean-Michel Blanquer, monsieur le ministre.
Je dirais même pas négocier, discuter. C'est-à-dire, moi, je crois, vous savez, si je me suis engagé dans l'éducation comme tous les professeurs très jeunes, c'est parce que je crois à l'esprit, je crois à la dimension intellectuelle des choses. Je pense qu'il faut penser les choses. Je pense que la discussion, le débat, doit permettre d'avancer. Moi, je rentre pas là-dedans comme dans une sorte de négociation binaire, puisqu'on se poursuit les mêmes intérêts. Et les mêmes intérêts, c'est effectivement un grand investissement dans l'éducation nationale, pour des professeurs qui soient mieux dans leur travail, et des élèves qui réussissent davantage. Sur cette base-là, et en regardant, on dispose de très nombreuses études pour savoir dans quel sens avancer, on a de la comparaison internationale à faire, et donc tout ce travail-là doit être collectif, et c'est un peu pour moi un enjeu assez beau des six prochains mois, et que j'envisage d'ailleurs avec vraiment beaucoup d'intérêt, sur le plan intellectuel comme sur le plan pratique, c'est-à-dire comment on réussit à passer une nouvelle étape de notre système, cette fois-ci pas par une évolution pédagogique particulière, comme avec différentes réformes, comme les réformes de l'école primaire ou du lycée actuellement, mais par une réforme des ressources humaines.
Merci Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, d'avoir été avec nous ce matin sur
Merci
France Culture.